Chapitre 7. Les offrandes des princes d'Israël. Ce long chapitre contient un exposé détaillé des offrandes respectives des 12 princes de la congrégation. Les chariots. Et il arriva le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, et qu'il l'eut oint et sanctifié avec tous ses ustensiles, et l'autel avec tous ses ustensiles, et qu'il les eut oint et sanctifiés, que les princes d'Israël, chefs de leur maison de père, princes des tribus, qui avaient été préposés sur ceux qui furent dénombrés, présentèrent leur offrande. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chariots couverts et 12 bœufs, 1 chariot pour 2 princes et 1 bœuf pour 1 prince, et ils les présentèrent devant le tabernacle. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends d'eux ces choses, et elles seront employées au service de la tente d'assignation, et tu les donneras aux Lévites, à chacun en proportion de son service. » Et Moïse prit les chariots et les bœufs, et les donna aux Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux fils de Guershon, en proportion de leur service, et il donna 4 chariots et 8 bœufs aux fils de Merari, en proportion de leur service. Sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Et il n'en donna pas aux fils de Kehath, car le service du lieu saint leur appartenait, ils portaient sur l'épaule. Versets 1 à 9. Nous avons vu dans le chapitre 4 que les fils de Kehath avaient le privilège de porter tout ce qui était le plus précieux parmi les objets du sanctuaire. Voilà pourquoi ils ne reçoivent aucun chariot de la part des chefs. Leur service était de porter sur leurs épaules. Plus nous examinerons les objets qui étaient remis à la charge et à la garde des Kehathites, plus nous verrons qu'ils présentent en type les manifestations les plus profondes et les plus complètes de Dieu en Christ. Les Guershonites et les Mérarites, au contraire, avaient affaire avec des choses qui étaient plus extérieures. Leur ouvrage était plus pénible, et par conséquent, ils étaient pourvus des ressources nécessaires que la libéralité des principaux mettait à leur disposition. Les offrandes pour la dédicace de l'autel. Et les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où il fut oint. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Ils présenteront un prince un jour et un prince l'autre jour leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Versets 10 et 11. Plus d'un lecteur, en parcourant des yeux ce chapitre particulièrement long, se demandera peut-être pourquoi, dans un livre inspiré, ce qui pouvait être dit en 12 lignes occupe tant de place. Si un homme avait rendu compte des offrandes de ces 12 jours, il les aurait probablement résumées très brièvement en un seul énoncé, en nous donnant la liste des choses offertes par chacun des 12 princes. Mais cela ne correspond pas du tout à la pensée divine. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. Il voulait, lui, une liste complète et détaillée, nous donnant le nom de chacun des princes, celui de la tribu qu'il représentait, et la liste des offrandes qu'il avait apportées au sanctuaire de Dieu. Chaque nom y brille dans son caractère distinctif. Chaque offrande est minutieusement décrite et dûment estimée. Ce que l'un a apporté n'est pas dévalorisé parce que d'autres ont fait la même offrande. L'homme peut passer rapidement ou avec insouciance sur les dons qui sont faits, mais Dieu ne le fait jamais. Il se plaît à rappeler chaque petit service, chaque petit don fait de bon cœur. Il n'oublie jamais les plus petites choses, et ici, non seulement il ne les oublie pas lui-même, mais il prend soin que le souvenir en soit consigné dans sa parole éternelle. Combien peu ces 12 princes s'imaginaient que leur offrande et leur nom seraient transmis d'âge en âge pour être lus par des générations sans nombre. En quelque sorte, ce 7e chapitre des Nombres est une page spécimen du livre de l'Éternité dans lequel le doigt de Dieu a gravé les noms de ses serviteurs et la liste de leurs œuvres. Si le lecteur veut ouvrir le chapitre 23 du second livre de Samuel et le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, il trouvera 2 pages analogues. Dans la première, nous avons les noms et les faits des hommes forts de David. Dans la seconde, les noms et les actes des amis de Paul à Rome. Dans ces deux chapitres, nous avons une illustration de ce qui est vrai de tous les saints de Dieu et des serviteurs de Christ, du premier au dernier. Chacun a sa place spéciale dans les livres et dans le cœur du Maître, et tous seront manifestés bientôt. Non seulement chaque nom, mais chaque acte est fidèlement inscrit, et de plus, la manière dont il est accompli. Tout est enregistré avec exactitude par une plume infaillible. Il en est ainsi dans cette remarquable page du chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Nous avons là ce qui concerne Phoebé, ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, et quelle était la base sur laquelle reposaient ses droits à la sympathie et à l'assistance de l'Assemblée à Rome. Puis viennent Prisca et Aquilas. Ici, la femme est nommée la première. Nous voyons comment ils avaient exposé leur propre coup pour la vie de l'apôtre et avaient mérité sa reconnaissance avec celle des assemblées des nations. Immédiatement après, nous avons le bien-aimé Épaïnette et Marie, qui non seulement a travaillé, mais a beaucoup travaillé pour l'apôtre. Sans trop nous étendre là-dessus, arrêtons-nous encore sur le verset 12. Pourquoi l'écrivain inspiré ne place-t-il pas sur le même plan Tryphène, Tryphose et Persis, la bien-aimée ? C'est parce que, des deux premières, il pouvait dire qu'elles avaient travaillé dans le Seigneur, tandis qu'il était juste d'ajouter pour la dernière qu'elle avait beaucoup travaillé dans le Seigneur. Ce n'est pas un mélange confus de noms et de services. Il n'y a pas de précipitation, pas d'inexactitude. Chacun a sa place et reçoit sa propre récompense. Redisons-le, c'est une page spécimen du livre de l'Éternité. C'est solennel et c'est encourageant. Il n'est pas un seul acte de service que nous rendons à notre Seigneur qui ne soit couché par écrit dans son livre. Et non seulement l'acte lui-même, mais aussi la manière dont il est fait. Si nous apprécions la manière, combien plus Dieu le fait-il ? Il aime celui qui donne joyeusement et celui qui travaille de bon cœur, parce que c'est précisément ainsi qu'il agit lui-même. Il était agréable à son cœur de voir l'élan de libéralité des représentants des 12 tribus se répandre autour de son sanctuaire. Il était agréable à son cœur de signaler les actes des vaillants hommes de David au jour de sa réjection, et de relever le dévouement des Prisca, des Aquilas, des Phoebé dans une époque plus récente. Nous pouvons ajouter qu'il est agréable à son cœur, dans ses jours de tiédeur et d'inertie, de voir çà et là un cœur qui aime vraiment Christ et un ouvrier dévoué dans sa vigne. Que l'Esprit de Dieu stimule nos cœurs à un plus entier dévouement. Que l'amour de Christ nous étreigne de plus en plus, de telle sorte que nous vivions, non pas pour nous-mêmes, mais pour lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang précieux.